Donc aujourd'hui, nous allons parler d'essais nucléaires. Alors attention, je précise tout de suite, parce qu'on ne va pas en reparler. Ça sera d'un point de vue scientifique et seulement scientifique. Donc on va parler d'essais nucléaires, en l'occurrence ceux de la France, qu'elle a fait à partir des années 60-66, pour être exact, jusqu'en 1996. Et ce, entre autres, on va se concentrer sur cela aujourd'hui, en Polynésie française, même si elle en a fait aussi dans le Sahara. Et pour donc en parler d'un point de vue scientifique, nous recevons ce soir le docteur Pierre Legendre. Bonjour Pierre Legendre.
Bonjour.
Et donc Damien, pour commencer, tu vas présenter notre invité pour savoir ce dont on va parler ce soir.
Oui, effectivement, nous recevons le docteur Pierre Legendre aujourd'hui, qui est professeur au département de sciences biologiques à l'Université de Montréal. Vous êtes spécialiste d'écologie numérique, alors vous allez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire et pourquoi c'est directement lié à cet article dont nous allons parler aujourd'hui. Pour vous présenter rapidement, vous êtes récipiendaire de nombreux prix et également de... deux fois sur la liste highly cited de Thomson Reuters en 2001 et 2014. Et vous êtes co-auteur cette année, le 10 juin exactement, dans la revue Proceedings of the Royal Society B, d'un article avec Bernard Salva de l'Université de Perpignan en France, 30-year recovery of mollusk communities after nuclear experimentation and Fagatofa Atoll, et donc qui traite de la reprise de la vie sur cet atoll après les essais nucléaires français dans les années 60 et 70. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, après cette rapide introduction, peut-être que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée de cette étude et de cette recherche.
Bon, d'abord, il faut se replacer dans le contexte historique de l'époque des années 60. C'était la guerre froide. Alors, la France a développé l'arme atomique, mais bien après ses alliés, les États-Unis et l'Angleterre, et aussi bien après l'URSS. Alors, les premiers essais nucléaires qui ont été faits par les États-Unis, c'était au Nevada. En URSS, ils ont aussi fait leurs premiers essais nucléaires sur leur territoire à Semipalatinsk, au Kazakhstan. La France a également fait ses premiers essais nucléaires dans le Sahara algérien. Mais ensuite, quand les explosions sont devenues plus fortes, tout le monde a migré vers des îles. Les États-Unis ont migré, déplacé leurs essais vers les îles Marshall, puis les îles Bikini, Christmas, Johnson et d'autres encore. L'URSS a choisi comme site d'essai l'archipel de Novaya Zemlya, qu'on appelle la Nouvelle Zemble en français, qui est un archipel dans l'océan Arctique. Et la France a déplacé ses essais vers deux atolls de Polynésie française dans l'archipel des Tuamotu. Et ces atolls sont Mururoa et Fangatofa. Ils sont, la Polynésie française est extrêmement grande. Si on regarde une carte du Pacifique et on y voit les îles de la Polynésie française, le périmètre externe de cette zone est aussi grand que l'Europe. Alors, il y a beaucoup d'espace entre ces îles et ces atolls. Les deux atolls qui nous intéressent sont situés à 1200 km au sud-est de Tahiti. Fangatofa, quant à lui, est un atoll d'un peu moins de 10 km par 10 km. Il est formé d'un anneau récifal avec un lagon au centre. Alors, en 1965, la direction des centres d'expérimentation nucléaire de France a demandé au professeur Bernard Salva, de l'École pratique des hautes études de Paris, qui est un spécialiste des mollusques marins, donc de réaliser une étude de la faune marine avant et après les tirs pour voir si la faune récupérait après les essais nucléaires. Le professeur Salva était le directeur du Centre de biologie et d'écologie tropicale et méditerranéenne et son laboratoire de recherche de l'EPHE est situé physiquement à l'Université de Perpignan, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Il est aussi le fondateur d'un centre de recherche, le CRIOB, un laboratoire marin qui est dans l'île de Moréa en Polynésie française, donc il était depuis très longtemps impliqué dans la recherche dans le Pacifique. Recevant cette invitation, Salva a vu là une occasion inespérée pour un scientifique de réaliser une étude expérimentale qu'il serait impossible de réaliser dans un contexte scientifique normal. Il s'agissait d'étudier la recolonisation par les animaux sur les récifs d'un atoll après des essais nucléaires ayant détruit une bonne partie de la vie à la surface de l'atoll. Donc, ça permettait de faire une expérimentation impliquant ce qu'on appelle en écologie la recolonisation primaire, quand la vie a été détruite. Quatre essais atmosphériques nucléaires ont eu lieu sur cet atoll entre 1966 et 1970. Deux de ces explosions ont eu des effets importants parce que la charge était plus forte. Il y a d'abord eu le tir Canopus de la première bombe à hydrogène française. C'était en 1968 et là, la charge était de 2,6 mégatonnes. Deux ans plus tard, en 1970, il y a eu le tir Dragon de 945 kilotonnes. Tous ces tirs-là ont des noms de code. Alors, les tirs sur Fangataufa avaient lieu sur une plateforme qui était attachée à un ballon. Le ballon lui-même était ancré en quelque part au-dessus du lagon.
Au centre du lagon.
C'est pas tout à fait au centre, mais on a la position ici sur une carte dans l'article. Et bon, c'était donc un essai atmosphérique, mais à une altitude contrôlée pour justement avoir un effet maximum sur la végétation, sur la faune de l'atoll. Et évidemment, les physiciens avaient aussi des appareils pour mesurer la puissance des tirs, les retombées, tout ce que vous voudrez.
Peut-être, je me permets de vous couper pour donner une idée par rapport aux images que peut-être que certains ont dans la tête d'Hiroshima et Nagasaki. Là, on parle vraiment de bombes beaucoup, beaucoup plus fortes. Hein. On n'est plus dans la bombe atomique, c'était la bombe A. Là, on est dans la bombe H. On rentrera sans doute dans les détails plus tard. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus fort que ce qu'on avait pu voir comme image
au
Japon.
Oui, en effet. Mais il y a aussi d'autres différences très importantes. Évidemment, au Japon, les États-Unis visaient une population civile, une population humaine. Comme biologiste, il y a de grandes différences entre les populations humaines et les populations de mollusques. Et parce que les populations humaines, les humains ont une stratégie K, c'est-à-dire avec peu d'enfants produits, on essaie de les préserver et tout ça, alors que les mollusques ont une stratégie R, c'est-à-dire des millions d'œufs ou de gamètes qui sont produits, et on espère qu'il y en aura un ou deux qui vont survivre. Donc, ce n'est pas du tout le même type de problématique.
Non, je parlais juste physiquement du type de bombe.
Oui, physiquement. Non, mais c'est qu'il y a d'autres journalistes qui m'ont posé ce genre de questions, alors c'est pour ça que je mentionne ces aspects-là, qu'on ne peut pas comparer l'effet sur des mollusques l'effet sur des populations humaines. Il y a évidemment tout l'aspect moral, évidemment. Qui intervient lorsqu'on parle des populations humaines. Bon, alors revenons à notre petite histoire. Moi-même, je suis intervenu plus tard dans cette affaire. Là, on parlait des tirs qui ont eu lieu vers la fin des années 60. J'avais commencé à donner des cours d'analyse de données écologiques, mais d'abord à l'Université du Québec à Montréal, à la fin des années 70, puis à Montpellier au début des années 1980. J'y retournais chaque année pour donner une série de cours. Des chercheurs du laboratoire de Perpignan, donc du laboratoire de Salva, étaient venus me consulter à Montpellier, puis certains sont venus à Montréal travailler dans mon laboratoire sur la réalisation des analyses de données de leur thèse, par exemple. Alors, à l'invitation de ces collègues, j'ai passé une partie de mon congé sabbatique de 1994 à leur laboratoire de Moréa, en Polynésie française, puis à Perpignan. C'est alors que Salva m'a demandé de l'aider à analyser les données qu'il avait recueillies à Fangataufa. C'est là où j'ai entendu parler de ces données pour la première fois, vers la fin des années 1990. Un étudiant de mon laboratoire à l'Université de Montréal a réalisé sa maîtrise en analysant une partie des données en 1995 et 1996. Puis, Salva m'a demandé de participer à ce qui devait être la prochaine et la dernière campagne d'échantillonnage de 1997 à Fangataufa. Et j'y suis allé. J'étais d'ailleurs le seul non-français à bord du navire Le Rivi, qui est un remorqueur ravitailleur militaire et qui a transporté et servi de base à l'expédition. Il y avait nous, les biologistes, mais il y avait aussi les physiciens qui étaient là, les gens de la radioprotection, enfin, il y avait toute une gamme de scientifiques à bord. Et comme les autres, j'avais le statut temporaire d'officier de la marine française, comme c'était le cas pour les autres scientifiques universitaires qui faisaient partie de l'expédition. Je trouvais ça très rigolo, d'ailleurs.
Et donc, on l'a déjà évoqué, vous avez étudié spécifiquement le repeuplement du littoral en ayant choisi les mollusques, la population de mollusques. Donc, on a déjà évoqué leur façon de se reproduire. Mais sinon, pourquoi vous avez choisi les mollusques?
Ça, c'était l'idée de Salva. Évidemment, lui étant spécialiste des mollusques, il y avait eu des tractations avec les gens de l'énergie atomique française, mais tout le monde s'était mis d'accord pour dire que les mollusques forment un groupe idéal pour étudier la recolonisation à la surface de récif. griffes. D'abord, on le sait bien, ce sont des animaux peu mobiles. Certains vivent à sec à marée basse, d'autres sont recouverts de quelques centimètres d'eau seulement à marée basse. Et ils ont été largement éradiqués par les explosions nucléaires à cause de ça. Parce qu'ils vivaient dans très peu d'eau. La chaleur de l'explosion nucléaire a fait évaporer l'eau. La plupart des mollusques ont été grillés.
D'accord.
Et en particulier par le tir Canopus qui a été réalisé à marée basse, justement. Là, ça a nettoyé la surface. Les larves de ces mollusques qui ont recolonisé le récif dans les années suivantes proviennent de la haute mer. Elles proviennent donc d'un pool régional de larves et elles s'installent sur le récif. C'est un point capital, cela. Ces larves ne sont pas les descendantes des mollusques qui ont été irradiés sur le récif. Elles proviennent d'un pool régional qui n'a pas été en contact avec les radioéléments. Les mollusques, ensuite, vivent longtemps, jusqu'à une dizaine d'années environ. Donc, ceux qu'on trouve maintenant, ils ne sont pas arrivés hier et ils ne partiront pas demain. Ils sont là pour un bon moment et la communauté évolue, se développe et change lentement. Leur identification aussi est facile pour un spécialiste, pas pour vous et moi, mais pour Salva certainement. On n'a pas besoin de faire des analyses chimiques, microscopiques ou génétiques. Le nombre d'espèces est limité, 36 espèces de mollusques sur l'atoll de Fangataufa, et ces espèces appartiennent à différents groupes trophiques. Il y a des herbivores, des carnivores, des détritivores et des filtreurs. Alors, ça nous donne une grande variété d'organismes qui occupent différentes niches dans l'écosystème. Finalement, les chercheurs peuvent récolter ces organismes-là à pied. J'ai mis ça entre guillemets, à pied, parce qu'en pratique, on est en combinaison de plongée avec masque et tuba, la tête dans l'eau, et on récolte les mollusques dans à peu près 30 cm d'eau. Et on peut faire cela sans le support d'un navire de recherche, ce qui rendrait l'opération beaucoup plus lourde. Il fallait évidemment un navire pour se rendre jusqu'à l'atoll, puis un zodiac pour transporter l'équipe et le matériel, mais le reste du travail se faisait à pied. Alors, l'équipe dirigée par Salva a réalisé 8 campagnes d'échantillonnage avant et pendant la période des tests, c'est-à-dire en 67, 68, 69, puis après les tests, en 72, 74, 77, 87 et 97, la campagne à laquelle j'ai participé. Et au fur et à mesure que le temps passait, nous avons examiner comment se reconstituait, comment se développait la faune.
Et alors, vous l'avez dit, cet atoll est de forme circulaire avec un lagon à l'intérieur et les mollusques sont peu mobiles et sont attachés à différentes zones de peuplement de cet atoll. Quelles sont les différentes parties que vous avez étudiées et comment vous les avez choisies?
D'abord, nous n'avons pas étudié les mollusques sur tout le périmètre de l'atoll. C'est un travail qui est très long de récolter et d'identifier ces mollusques-là. Nous avons travaillé sur 3 transectes, 3 zones d'échantillonnage. C'était les mêmes zones au cours des 8 campagnes. 2 transectes externes, c'est-à-dire donnant sur l'océan, qui comprenaient une zone supralittorale, un platier, une crête récifale juste avant d'arriver à l'océan. Et cette crête forme la limite de l'atoll et constitue une barrière physique qui le sépare de l'océan. Après la crête récifale, la pente descend jusqu'à quelques milliers de mètres sur le Pacifique.
On a la partie externe, la crête qui est un petit peu le sommet de cet anneau circulaire qui forme l'atoll. Et de l'autre côté, on est à l'intérieur.
À l'intérieur, mais dans une zone qui reste légèrement recouverte d'eau, qu'on appelle le platier. Et ensuite, il y a une zone sèche qu'on appelle la zone supralittorale. Et on a aussi échantillonné un transect interne, c'est-à-dire un transect qui donne sur le lagon, au lieu de donner sur la mer à l'extérieur. Et là, on avait un platier et une crête récifale. Alors, notre travail se faisait à marée basse, pas à marée haute, lorsqu'il y a peu d'eau sur le platier. Et à ce moment-là, la zone supralittorale est complètement à sec. L'échantillonnage près de la crête récifale, si je peux le mentionner, c'est assez dangereux à cause des vagues de plusieurs mètres de hauteur qui déferlent à un rythme régulier sur le récif. Il ne faut pas se laisser emporter par ces vagues-là parce que là, on serait mal pris.
Et alors, par rapport à vos résultats, vous avez observé une différence dans la façon de repeuplement entre ces différentes zones. Donc, on a parlé de la zone platier et de la zone supralittorale. Donc, les zones supralittorales, ce sont des zones qualifiées de milieu extrême. Et donc, si on devait commencer par le platier, comment vous définiriez ces zones? Qu'est-ce que vous avez observé dans ces différentes zones?
Bon, d'abord, je vais vous parler de l'aspect physique du platier. C'est une zone qui est d'une largeur variable selon l'endroit où on se trouve sur la couronne du récif. Dans notre transect, elle pouvait avoir 50 mètres à 200 mètres de largeur, mais ça, c'était la longueur de notre transect, puisque le transect était perpendiculaire à la rive, en quelque sorte. Donc, il avait à un endroit 50 mètres de longueur, notre transect, à un autre endroit 200 mètres. Et donc, l'eau est peu profonde à marée basse. Et c'est là où on trouve la majorité des espèces de mollusques. La crête récifale a aussi des espèces caractéristiques. C'est une zone surélevée de 1 à 2 mètres au-dessus du niveau du platier, qui est plus étroite et qui sépare donc le récif de l'océan. Et là, les données que nous avons récoltées, on les a mises dans le même fichier de données que ceux du platier pour les fins de l'analyse. La zone supralittorale, elle, est très différente. Alors, nous sommes en zone tropicale. Nous sommes à 22 degrés au sud de l'équateur et je peux vous dire qu'il y fait très chaud l'après-midi sous le soleil. La zone supralittorale est recouverte d'eau seulement lors des grandes marées qui arrivent une fois par mois. Le reste du temps, les mollusques sont à sec, ce qui leur demande des adaptations physiologiques très particulières. Et c'est pourquoi on y trouve très peu d'espèces.
Oui, alors on reviendra sur la zone supralittorale un petit peu après, mais dans la zone platier, vous avez montré une prévalence des espèces carnivores par rapport aux espèces herbivores après les essais nucléaires. Et alors comment est-ce que vous avez observé ça tout d'abord et après comment vous l'avez expliqué?
Alors c'est exact que nous avons trouvé plus de carnivores dans les peuplements du platier après les essais nucléaires. Notre analyse a également montré que les changements entre les herbivores et les carnivores n'étaient pas les mêmes d'un récif à l'autre. Donc nous avons évidemment comparé l'évolution du peuplement dans les campagnes après les essais à la composition que nous avions, que Salva avait observée avec son équipe avant les essais. Maintenant, quand on parle de mollusques carnivores, mais ici, je veux faire une précision parce que d'autres journalistes étaient un peu inquiets de ce qui se passait. Est-ce qu'on a des gros carnivores qui mangent les pauvres petits mollusques herbivores? Non, ce n'est pas du tout le cas. Les carnivores mangent des organismes plus petits qu'ils trouvent sur les récifs et ils cohabitent très bien avec les herbivores qui sont dans la même classe de taille qu'eux. Notre observation d'un changement, d'une augmentation des carnivores ne reflète donc pas un processus de prédation des carnivores qui mangeraient les mollusques herbivores, ils mangent autre chose. Les changements que nous avons observés sont par ailleurs en accord avec une hypothèse de fluctuation aléatoire auquel on peut s'attendre dans des peuplements qui sont constamment régénérés par des larves provenant de l'océan qui entoure l'atoll. Ce mécanisme appartient à ce que les écologistes appellent les processus neutres, soit la famille de processus écologiques qui ne font pas intervenir des préférences des organismes pour des conditions environnementales particulières. Et là, justement, notre conclusion dans l'article, c'est que sur le platier, le renouvellement, l'évolution du peuplement a l'air de procéder selon un processus neutre. Et c'est pour ça qu'on observe une composition, vous avez mentionné les carnivores, une composition carnivore, donc plus importante après les essais que ce que c'était avant. Mais si on attendait encore 20, 30, 50 ans, ben, ça peut très bien que ça revienne à un équilibre différent. Cette observation-là montre l'importance des suivis à long terme sur les écosystèmes pour comprendre les fluctuations naturelles des peuplements. Nous manquons de données à long terme décrivant la variation de la plupart des écosystèmes et en particulier des récifs coralliens. De telles données nous permettraient de répondre plus précisément à votre question. Ce changement est-il dans l'ordre des choses ou est-il exceptionnel? Nous ne le savons pas parce que nous n'avons pas de données comparables ailleurs et notre série actuelle de données nous montre simplement que ce n'est pas la même chose après qu'avant. Ça nous montre aussi que c'est différent d'un récif à l'autre sur le même atoll, mais on ne sait pas quel est le futur, quel est l'avenir de ces peuplements.
Peut-être juste une parenthèse, vous disiez en introduction qu'il y avait d'autres pays qui avaient fait d'autres essais nucléaires. Est-ce que vous avez connaissance d'autres scientifiques qui auraient fait le même type d'études de comparer avant et après un essai nucléaire?
À ma connaissance, il n'y a pas d'autres études qui ont été publiées provenant des autres pays qui ont fait ce genre d'essais-là. Alors, je ne veux pas me prononcer sur le pourquoi de la chose, mais on peut constater que la France n'a pas eu peur, justement, de dévoiler les résultats recueillis par les scientifiques qui avaient été mandatés d'abord pour répondre à une question que se posaient les militaires. Mais lorsque nous avons demandé si c'était bon de publier, on nous a dit tout de suite d'accord.
OK. Et donc là, pour revenir à nos mollusques, on parlait de la zone platier. Si maintenant on revient sur les zones supralittorales, elles présentent peu de changements dans les espèces retrouvées avant et après les essais nucléaires. Donc d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, je vous mentionnais plus tôt que dans la zone supralittorale, les mollusques sont au sec et ils ont donc été particulièrement exposés à chacun des essais nucléaires, même ceux qui étaient moins importants. Dans la zone supralittorale, la plupart des mollusques ont été éliminés par chacune des explosions nucléaires, sauf ceux qui étaient peut-être cachés dans des anfractuosités du rocher. Comme ce sont des milieux extrêmes, il n'y a guère que ces espèces-là, 3 ou 4 espèces, qui peuvent revenir les coloniser. Elles l'ont fait au fur et à mesure des années. Des larves sont arrivées de l'océan et d'autres individus de ces mêmes espèces seront constitués à peu près la population initiale. Ce sont les conditions environnementales qui ont filtré les espèces et qui ont pu leur permettre de s'établir dans ces zones. Donc là, on a un exemple du filtrage environnemental qui n'est pas du tout un processus neutre. Et c'est très intéressant d'avoir sur les mêmes récifs, selon les zones, des exemples du processus neutre d'une part et du filtrage environnemental d'autre part. C'est peut-être l'une des contributions les plus importantes de notre article publié dans Proceedings B.
Et alors, en termes de perspective, un petit peu sur le suivi à long terme justement de cet atoll, il y a une autre modification importante qui a été apportée à cet atoll par l'homme, c'est l'ouverture d'une passe dans la structure circulaire qui forme le récif de l'atoll pour faire entrer les bateaux à fort tonnage qui ont probablement déposé le matériel nécessaire aux essais atomiques. Et cette passe, elle entraîne des courants marins qui pénètrent dans l'atoll alors que dans une situation naturel, ça n'existe pas. Est-ce que vous pensez qu'à long terme, ça aussi, ça pourrait avoir une conséquence sur la faune et peut-être la flore de cet atoll?
Comme écologiste, j'en suis convaincu, mais comme vous le verrez, nous n'avons pas de données précises pour supporter une telle affirmation. Comme vous l'avez mentionné, Fangataufa était à l'origine un atoll fermé par le récif qui l'entourait complètement. Le niveau de l'eau à l'intérieur de l'atoll était plus élevé que le niveau de la mer à l'extérieur, de 30 cm environ. La chimie de l'eau du lagon différait légèrement de celle de l'océan. Les communications et échanges d'eau entre le lagon et l'océan, dans les atolls fermés, se font par des canaux peu profonds qu'on appelle des hoa. Ça fait partie de la langue polynésienne. Et ces canaux sont peu profonds, 10 à 20 cm de profondeur, mais les échanges sont très faibles. Donc, la composition chimique de l'eau est vraisemblablement différente à l'intérieur d'un atoll fermé de ce qu'elle est à l'extérieur. Alors, comme vous l'avez mentionné, en juin 1965, les ingénieurs militaires français ont ouvert un chenal dans la couronne de l'atoll pour permettre aux navires de transport d'y pénétrer et de se mettre à l'abri des tempêtes, entre autres. Avec l'ouverture de cette passe, le niveau de l'eau du lagon s'est équilibré avec celui de l'océan, donc il a diminué. Les récifs intérieurs ont commencé à subir la marée, ce qui n'était pas le cas lorsque l'atoll était fermé. La chimie de l'eau a réellement été modifiée par le contact direct avec l'eau de l'océan Pacifique. Cela a évidemment modifié le milieu de vie des organismes récifaux vivant à l'intérieur de l'atoll, puisque la partie supérieure du platis a été mise à sec par la baisse du niveau. Donc, tous ces changements-là nous portent à croire qu'il y a eu, en effet, une modification du milieu de vie pour plusieurs espèces. Mais, comme je vous le mentionnais, nous ne disposons pas de données sur les mollusques avant l'ouverture de la passe, parce que Salva n'avait pas encore reçu son mandat en juin 1965, au moment où la passe a été ouverte. Nous n'avons donc pas pu faire une comparaison quantitative de l'influence de ces travaux sur des peuplements de mollusques.
On peut d'ores et déjà faire une conclusion sur le message que vous retirez de cette étude publiée avec Bernard Salvia.
Oui, Alors Bernard Salva m'a écrit ceci. Je cite, « Après 8 ans de campagne scientifique, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout est redevenu normal, avec quelques changements qui ne sont plus dus aux expérimentations nucléaires, mais plutôt à la variabilité naturelle du peuplement. » Alors, Salva et moi, nous sommes d'accord. La nature a repris ses droits à Fangatofa et elle montre de nouveau une forte variabilité, mais celle-ci est une variabilité naturelle.
Merci beaucoup. On pourrait conclure, c'est une bonne nouvelle, presque, qu'après ces essais nucléaires, la vie est capable de se réadapter et de reprendre, comme vous le disiez, de reprendre le dessus.
Oui, oui, tout à fait. C'est l'aspect très positif de ce suivi environnemental après des expérimentations nucléaires.
Merci beaucoup, Pierre Legendre.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.